Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Quelques rares jours par an, on peut visiter les demeures privées, classées, inscrites, protégées au titre des monuments historiques. Plus original, on peut, et ce depuis une trentaine d'années, visiter un château médiéval au cœur de la Bourgogne en train d'être construit. Pas une restauration, pas une copie, non, une création. Et mieux, on peut aider à la construction de ce petit château de frontière, lequel château, dans une cinquantaine d'années, sera ouvert au public et constitué par nos descendants qui se réjouiront, espérons-le, qu'à leur façon, des bâtisseurs aient inventé le patrimoine. Un patrimoine du XIIIe siècle, en fin de XXe et au début du XXIe siècle. Vous allez tout comprendre grâce à l'équipe de Sur la route qui avait posé ses micros en forêt de Guédelon le 31 octobre 2014.
Sur la route, Julie Gacon avec Yvon Croisier et Sophie Bobert.
Bon, ben moi je me suis découvert une âme de bâtisseur, Yvon. Alors, bon, je vais faire avec mes moyens, hein. Je vais faire un petit château. Pas exagéré non plus. Alors, est-ce que tu peux me trouver, s'il te plaît, un lieu bien dégagé? Hein? Alors, il faut un promontoire, c'est important pour qu'on puisse voir des assaillants arriver. Ah oui, puis à l'abri des courants d'air, hein. C'est mieux. Voilà. Alors, pour le reste, tout est une question de patience et de doigté. Le principe, chaque étage doit impérativement être construit avec une mise à niveau strictement horizontale. Ben oui, moi aussi, j'utilise les techniques ancestrales. Donc, je te montre. Tu vois, c'est un truc comme ça. Oh punaise, c'est pas gagné. Il faut bien sûr faire une arche en forme de A. Et puis hop, tu bouches horizontalement pour faire une plateforme. Mais ça commence à ressembler à quelque chose. Et donc voici dans toute sa splendeur un château aux voûtes triangulaires. Louis XIII adorait, il paraît. Ah oui, et puis au dernier étage, ça sera la chambre pour le roi et la dame de cœur. Yvon, non, non, mon château de cartes! Encore raté, ma candidature pour rejoindre les bâtisseurs de Guédelon. Quoique, les recruteurs se veulent grands princes, aucune compétence spécifique n'est requise, précise le site internet. Seule la bonne volonté et le désir d'apprendre sont nécessaires, ça tombe bien. Nous sommes à 45 km au sud-ouest d'Auxerre, bois de l'Apuisais, forêt de Guédelon. Une quarantaine d'œuvriers y bâtissent un château fort. Cela fait 17 ans que le chantier est en place. C'est qu'il faut du temps quand on s'oblige à faire selon les techniques et les matériaux utilisés au Moyen-Âge. Les fous de Guédelon, dit-on en parlant d'eux. Et c'est le fou en chef qui est avec nous ce soir. Bonsoir Florent Renucci.
Bonsoir.
Vous êtes le maître d'œuvre de Guédelon. Alors au XIIIe siècle, vous auriez eu quel rôle?
C'est le rôle de l'architecte de terrain qui est là au milieu du groupe et qui va contribuer à faire tous les choix de matériaux, de dessins, hein, en concertation avec les différents métiers pour arriver à donner les clés d'un programme de château fini au seigneur qui l'a commandé.
Alors en général, à l'époque, paraît-il, le maître d'œuvre ne se formait pas dans une école, mais directement sur le chantier. Est-ce que c'est votre cas ?
Alors, oui, parce que quelque part, j'ai été amené à être dans ma vie professionnelle, donc tailleur de pierre en monument historique, et j'ai exercé pendant plus de 5 ans cette activité. Donc, et c'est effectivement, chaque chantier est un cas différent et on apprend, voilà, on apprend à démonter des voûtes, à... Donc c'est une expérience engrangée. Je crois qu'aujourd'hui, comme jadis, on est toujours dans ces métiers où l'expérience donne une valeur et affine le savoir-faire.
Alors le maître d'œuvre, c'est aussi celui qui reçoit une commande. Alors qui vous a passé commande? Quelle est la genèse du projet? On reprend les choses depuis le début, Florian Renucci. Nous sommes dans les années 90. Alors?
Alors, Michel Guyot, qui est propriétaire du château de Saint-Fargeau, hein, et qui l'anime et qui en assure la restauration, eh bien, il vient de recevoir en fait une étude archéologique qui montre que sous le château de briques du XVe siècle se trouve un château du XIIIe siècle en pierre. Un château donc semblable au château de Ratilly, qui est pas très très loin. Et l'idée jaillit, mais pourquoi pas restituer le château primitif, puisque Saint-Fargeau est un château gigogne, un peu comme des poupées russes. En fait, le château XIIIe n'a pas été démoli, il est simplement englouti sous une peau de briques, de deux murs de 2 mètres de briques. Et voilà, le projet est né, construire le Saint-Fargeau du XIIIe siècle. Après, pour plein de raisons techniques et avec Marilyn Martin, qui, avec Michel Guyot, vont lancer cette idée de construire un château, eh bien, ils trouvent un site, une carrière de greffurgienneux où, effectivement, est présent le sable, la pierre, le bois et... C'est là que tout commence en 1997.
C'est ça, il fallait une pertinence géographique du lieu, une disponibilité des matières premières, alors en l'occurrence la pierre, le grès ferrugineux, dites-vous.
C'est l'identité de cette petite région de France où on a effectivement du sable et des lentilles gréseuses. Et là, on est sur une carrière, donc pas besoin d'aller chercher des matériaux à l'autre bout de la France. On transforme. On a commencé déjà par la pierre, mais on s'est rendu compte avec les années qu'il y avait tout sur place. Parce qu'après, on a vu qu'il y avait du sable, de la glaise, bien sûr les chênes de la forêt. Et le chantier est devenu en fait la transformation d'un écosystème en château.
Mais alors, au temps du Moyen Âge, on aurait fait la guerre pour se procurer un tel terrain. Vous l'avez acquis comment? Ce terrain-là, il a fallu l'acheter?
Oui, alors il y a une anecdote assez amusante, puisque je crois que Marilyn, Martin et Michel Guillaume avaient acheté le même jour, mais sans se concerter, la carte géologique. Et tous les deux ont pointé dans des endroits différents cette ancienne carrière. Hein, ils cherchaient un site où placer le château. Et en fait, ils se sont retrouvés quasiment au même endroit, à la même déduction qu'il fallait que ce soit là. Et à partir du moment où il a fallu acheter le terrain, ce qui s'est fait voilà, en quelques semaines, le projet a pu démarrer.
Mais sur le livre que vous en avez fait, cette aventure qu'on citera à la fin de l'émission, vous dites que vous l'avez acheté pour 6 500 francs de l'époque. Ça paraît rien du tout pour un terrain qui a comme ça, qui dispose de plein d'arbres et puis pas des petits arbres. Hein, il y a des gros chênes notamment.
Oui, c'était une quinzaine d'hectares avec ce qui était une petite friche industrielle, c'est-à-dire qu'il restait, je me rappelle, j'ai vu des photos d'un bus brûlé, c'était et puis des rails de Decauville. C'était une carrière qui a servi à construire la digue du Bourdon à 3-4 kilomètres, donc il y avait un petit chemin de fer pour acheminer. Il y a des très très belles photos 1900 où on voit des ouvriers, des carriers travailler. C'est assez émouvant dans ce même lieu.
Et vous avez obtenu un permis de construire facilement?
Ah mais bien sûr, tout ce travail de démarrage de chantier s'est fait avec un architecte des monuments historiques, Jacques Moulin, qui a donc a fait un projet de permis de construire qui était accepté. C'est ça qui est assez amusant. Un château du Moyen-Âge est passé par un permis de construire en bonne et due forme, pour permettre de construire.
Voilà, et le chantier démarre il y a 17 ans aujourd'hui. La carrière vous donne non seulement des pierres pour construire le château, mais aussi du sable pour les mortiers, de la glaise pour les tuiles, de l'ocre pour les couleurs. Dans la forêt de Guédelon, on est vraiment devant un paysage de l'an 1000. Dans les belles lumières d'automne. Je pense que c'est ce qui convient le plus à Guédelon. Déjà, c'est une lumière rasante, donc il met tous les volumes en exergue. La pierre et la terre de Guédelon, elle est très ocrée, donc dans cette espèce d'ambiance de forêt automnale, là, c'est assez magique. Là.
Ça commence à ressembler à un château, quand même.
Oh bah ouais, je trouve même un petit peu... On voit bien que c'est un château, quand même. Donc on a nos tours d'angle, la tour de la chapelle sur laquelle on est en train de commencer une voûte d'ogive. Et puis là où on a posé, vous voyez, on va monter la voir, mais une très belle fenêtre gothique qui correspond à la fenêtre de la chapelle. Là, on a la tour maîtresse. Cette tour-là, c'est la plus grosse. C'est celle qu'on peut aussi appeler le longeon. Elle va monter à 10 mètres au-dessus des arbres une fois qu'elle sera terminée. Et puis là, vous voyez le logis avec ses fenêtres en calcaire. Donc on travaille avec deux matériaux. La pierre, le grès ferrugineux qu'on extrait de la carrière qu'on voit là. Et puis la pierre calcaire qu'on va chercher, comme on l'aurait fait au Moyen-Âge, à une vingtaine de kilomètres d'ici, à Donzy, pour faire tout ce qui est un petit peu ostentatoire, qui mérite un petit peu plus de finesse dans la taille.
Marilyn Martin, il faut préciser que vous êtes la directrice de Guédelon. Il faut dire directrice, il ne faut pas dire châtelaine, par exemple, parce que Guédelon est une entreprise, en fait.
Quand on a démarré ce projet, c'était vraiment l'idée folle. Là, on voit, c'est bien construit, c'est beau, c'est délicat, la lumière est magnifique, les oiseaux chantent, etc. Imaginez, quand on a démarré ces murs d'escarpe, là, ces murs en biais, qui sont, on va dire, les fondations du château, on est sur des murs qui font 3,50 m d'épaisseur, qui font 3 mètres de haut. Vous imaginez, ils font 50 mètres à peu près par 50 mètres, ce qui veut dire que j'ai emmené une équipe de maçons et de fous qui m'ont suivi à construire un château complètement à la main sur des murs aussi épais. Donc c'est une aventure. Aventure humaine et projet fou, c'est pas la collectivité de financer ça, c'était à nous de prendre nos responsabilités. Donc Guédelon est une entreprise qui fait visiter ce château, ce chantier de construction à un public le plus large possible. On a beaucoup d'enfants dans le cadre des visites scolaires, beaucoup de grands publics, familles, etc. Et l'idée étant que les visiteurs financent l'ensemble des 70 salaires qui nécessaires à la construction et au fonctionnement de cette aventure de Guédelon.
Les 70 œuvriers.
Les œuvriers, c'est ceux qui bâtissent. Carrier, maçon, tailleur de pierre, charpentier, bûcheron, maçon, etc. Puis après, il y a bien évidemment les gens qui accueillent les visiteurs, les guides, les animateurs pédagogiques, etc. Les ouvriers, c'est ceux qui œuvrent.
Ceux qui œuvrent avec un savoir-faire qui est censé être le savoir-faire du XIIIe siècle.
Oui, donc il y a une petite révolution culturelle à faire quand on arrive à Guédelon. Par exemple, on doit un peu oublier, si on était charpentier, la logique d'une charpente traditionnelle pour se mettre dans la logique d'un charpentier du XIIIe siècle.
Mais pourquoi vous êtes compliqué la vie comme ça, alors? Plutôt que de se dire, on va faire un château, bon, certes, parce que ça fera un beau château dans la région, un de plus, mais avec les méthodes qui existent aujourd'hui.
Mais c'est pas rigolo. Enfin, l'idée, c'était vraiment de vivre cette aventure jusqu'au bout. Et donc, l'idée, c'est vraiment... Un chantier d'archéologie expérimentale, c'est de s'approcher le plus proche possible de ce qu'était la réalité d'un chantier médiéval ici, dans cette petite région. Et c'est ça qui est absolument génial et passionnant. Et c'est là-dedans aussi qu'on emmène toute notre équipe.
Bon, c'est solide. A priori, on peut aller voir de plus près.
Ouais. Donc voilà, là on est dans la cuisine. Alors, c'est une des premières pièces qui a été terminée à Guédelon, qu'on a tout de suite mise en activité, donc, où on fait la cuisine. On y cuit aussi le pain fait avec la farine du moulin de Guédelon.
Mais vous le faites pour de vrai, non? Parce que ça sent...
Ça sent la cendre, ça sent la farine, ça sent le pain. C'est oui, il y a aussi des parfums très particuliers à Guédelon quand on passe, qu'on sent la forge, qu'on passe dans cette pièce-là. Vous allez voir, après, ça va sentir un petit peu le mortier, une espèce de terre un peu fraîche comme ça. Et oui, ça fait partie aussi de tout ce qu'on aime bien ici. Et là, moi, je suis toujours un peu émue. C'est-à-dire que c'est ce que j'aime à Guédelon, c'est d'un seul coup sentir les charpentiers pour les portes, les forgerons. Et de sentir que voilà, c'est vraiment l'énergie d'une équipe, pas si nombreuse que ça. Hein, sur la construction, quand on met, on a 40 personnes qui travaillent sur le chantier. C'est pour ça que quand on fait le tour du château, on sent chaque métier avoir laissé vraiment son. C'est très très humain dans ce qu'on laisse. On sent le moindre coup d'outil. On a une anecdote par rapport à chaque situation de construction. Donc voilà. Donc voilà, donc c'est la chambre du Seigneur, c'est la première chambre sur laquelle on a peint des premiers motifs de peinture murale, en insistant sur le fait que d'une part les 9 couleurs qui sont là sont produites à Guédelon à partir de l'ocre de Guédelon qu'on trouve à l'état pur à la carrière. Donc on transforme ces terres, on les cuit, pour arriver à avoir cette gamme de couleurs. Ensuite, on a la chance d'avoir à quelques kilomètres d'ici l'église de Moutier qui avait des peintures murales 13e très très bien conservées. Donc on a été faire la réunion de chantier directement, l'église de Moutier à 5 kilomètres. Et puis chacun a gardé un petit peu. On a relevé des frises, des détails, des arbres qui existent donc dans l'église de Moutier.
C'est très végétal.
C'est très végétal, oui. Ça a un petit côté même baba cool, hein, parce que c'est très c'est coloré. Ces grosses fleurs peace and love, mais elles sont 13e.
Et le seigneur de Guédelon était peut-être très cool, en fait.
Oui, je pense qu'il était très cool. Ouais. Moi, si j'avais venu, je pense que ça aurait été quelqu'un de très, très cool. Et donc, c'est aussi pour ça que ces motifs sont pas terminés, cette pièce n'est pas terminée. Je crois que Guédelon, ça doit rester un petit peu en devenir. On ne doit pas dire, ça y est, c'est fini. On a fini la chambre du Seigneur, c'est fini, on est sûr de nous, c'est bon, les peintures murales. Là, c'est une première esquisse. On sent qu'il y a une intention, mais on sent qu'on n'a pas complètement été jusqu'au bout du dossier, ou sinon, il nous manque encore des infos. Donc ça, c'est le côté vraiment passionnant. En archéologie, il suffit qu'on se mette à fouiller, qu'on ait un scoop, quoi. L'information, elle est universelle. Non, il suffit d'un élément de plus et on remet tout en cause. Donc ça, moi, c'est le côté complètement passionnant de ce voyage permanent entre le 13e et le 21e qui nous passionne et qui fait qu'on ne peut pas se permettre de dire « Voilà, nous, on vous propose cette pièce, ces motifs et on vous garantit que c'était comme ça ».
Sur la route des bâtisseurs de châteaux dans l'Yonne, nous sommes entre le chantier de Guédelon et le studio de France Bleu Auxerre avec le maître d'œuvre du chantier, Florent Renucci. Cette chambre du Seigneur que l'on quitte à l'instant avec Marilyn Martin, Florian Renucci, elle nous donne peut-être un petit indice sur la période où vous situez le château de Guédelon. On est à une époque où le château a une fonction de résidence. On peut y dormir, on y dort.
Voilà, alors ça dépend où on se trouve. Donc, pour essayer quand même d'imaginer quel est ce seigneur de Guédelon pour lequel on construit le château, on a défini un contexte historique qui est très simple. On déroule le chantier à peu près 25 ans, peut-être 26 ou 27. Hein. On démarre le chantier en 1229, jusque dans les années 1254. Il se trouve qu'on est sous le roi Louis IX. Ici, le château est construit à l'endroit où on a imaginé donc son emplacement. Hein, on copie pas un château écossais ou italien. On essaie d'imaginer quel château on peut construire, empuiser, forterre, voilà, dans ces années-là, 1230. Il se trouve qu'on est un peu sur les terres de Jean de Toucy. L'autorité comtale est détenue par Mao de Courtenay, grande famille, puissante famille qui avait trois comtés au Auxerre-Neuvertenaire, qui sont des proches des Capétiens. Et le seigneur de Guédelon, dans tout ça, eh bien, il est naturellement, il n'a pas existé, mais il serait naturellement vassal d'un grand personnage historique, Jean de Toucy. Voilà, on a le contexte, on sait qu'on va utiliser les matériaux du lieu, et donc tous les choix, on les fait par rapport, eh bien, à ce qui existe. Car dans ces années-là, eh bien, les rois de France, depuis Philippe Auguste, ont donné une certaine forme de château. On est dans un endroit qui est quand même assez pacifié, donc c'est pas vraiment un château de guerre, un château de frontière, c'est un château résidence avec des droits administratifs. Voilà, petit château pour un petit seigneur.
Philippe Auguste, il aimait les châteaux, hein, il en a fait construire pas mal à son époque.
Philippe Auguste, c'est un roi bâtisseur. Et il a construit à la fois les bases finalement d'un État moderne, puisqu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui est amené par Philippe Auguste par rapport à ses prédécesseurs. Et il incarne cet État royal capétien centralisé, hein, qui va nous donner plus tard effectivement la France avec les hauts fonctionnaires et autres. Il incarne ça dans une architecture fortifiée qui sera le symbole de son pouvoir, avec l'alliance énorme qu'il fait avec le monde des bourgs, les villes franches. Il met sous sa protection des villes qui sont des lieux de développement économique et elles se dotent d'enceintes urbaines. Donc, encore une fois, des tours, des fortifications. C'est effectivement plus de 150 châteaux et enceintes qui sont construits autour de Paris entre 1200 et à sa mort 1223.
Alors ce château de Guédelon, il est très inscrit dans son territoire, nous dites-vous, mais vous avez quand même des modèles de châteaux, des bâtisses construites à cette époque et qui vous servent d'exemple. Vous y allez souvent, vous allez faire des visites comme ça, un peu organisées, dans des bâtisses du XIIIe siècle, pour voir un peu comment elles étaient faites, et puis vraiment vous en inspirer.
Alors, pour tout le chantier, pour les tailleurs de pierre, pour les maçons, charpentiers, il est complètement indispensable d'aller face aux modèles.
Lesquels ? Quel modèle, par exemple ?
Pour nous, c'est le château de Ratty qui nous offre les techniques de construction utilisant du greffe ferrugineux. Il est 13e. C'est un château philippien. C'est une enceinte carrée, régulière, cantonnée de tours d'angle aux angles, d'une porte entre deux tours. Il est cité dans la mouvance de la famille de Toucy, 12e, 13e. Et il échoue à Mathieu de Ratty, deuxième moitié 13e. Donc bon, c'est vraiment un château qui nous a aidé à comprendre l'organisation du greffe ferrugineux au niveau des murs. Il est très marqué par un programme utilisant ce qu'on appelle des rangs de réalignement. C'est-à-dire que c'est du moellon, donc c'est des pierres cassées formant les murs, les parements de murs extérieurs. Et on a comme des ceintures de pierres un peu mieux taillé sur trois assises qui vont donner comme ça un rythme horizontal revenant tous les 3 mètres. Ce style-là, on l'a aussi au château d'Angers, qui est un château royal des années 1230. Et on va s'approcher non seulement d'une forme, mais on va essayer de reproduire le geste et de comprendre pourquoi est-ce qu'au XIIIe siècle, on utilise les pierres de cette manière-là. Est-ce que ça a une conséquence? Alors je donne juste un exemple. Par exemple, ces pierres taillées qui reviennent et formant des assises horizontales, eh ben on s'en sert pour descendre le fil à plomb. Ça nous permet de régler la levée de pierre de moellon, donc de la pierre cassée, qui va du coup se référer à l'assise de pierre précédente qui a été donc taillée pour qu'elle soit droite. Donc on utilise quelque chose qui pourrait passer pour de l'histoire de l'art, pour du décor, comme quelque chose de pratique. Et ça nous donne aussi un éclairage particulier sur les châteaux qu'on a pris pour modèle.
Ce sont des châteaux qui, peut-être pour certains, sont à rénover. C'est une question que vous avez dû entendre souvent. Pourquoi construire un château quand il y en a tant à refaire, à rénover, à rafraîchir, comme on dit?
Alors, à Guédelon, on construit pour comprendre, pour finalement présenter au public le déroulement de A à Z, quelque chose qu'on ne verra jamais. C'est comme si on osait mettre une petite caméra sur la construction de Notre-Dame de Paris, où on n'aura jamais plus ça. On n'aura jamais de photos nous montrant au Moyen-Âge un chantier de construction de Dourdan, du château de Dourdan ou du château du Louvre. À travers le château de Guédelon, on propose un scénario, un processus de transformation des matériaux, et les visiteurs entrent dans un château, un décor de chantier en cours de réalisation. Et donc, effectivement, c'est complètement différent de restaurer un château déjà existant. Alors après, on peut s'inspirer, on peut s'approcher, on peut se dire qu'on peut faire des restaurations beaucoup plus respectueuses, peut-être des murs, des pierres et des appareillages. Mais c'est deux choses différentes.
Et ben on va aller les rejoindre, les touristes, sur le chantier de Guédelon. Nous sommes donc, si je vous ai bien suivi, en l'an 1244. Et les œuvriers sont évidemment vêtus d'une biode. C'est la blouse de l'époque.
Là, c'est le plancher des purs, c'est où est-ce qu'on trace toutes nos charpentes à l'échelle 1, c'est-à-dire à vraie grandeur.
Vous êtes le charpentier, un des charpentiers de Guédelon.
Oui.
Mais ça veut dire quoi, charpentier, au XIIIe siècle ?
Eh ben, charpentier, ça veut dire beaucoup de choses, en fait. C'est la personne qui travaille le bois. Donc ça va des échafaudages, les engins de levage, les cintres pour les voûtes, jusqu'aux charpentes. Pont, plancher, porte, c'est très, très vague, quoi.
Et il paraît que vous ne sciez pas.
Très peu, très très peu. La scie existe hein, au Moyen-Âge quand même, mais on va préférer, pour avoir des planches par exemple, fendre le bois. Donc on le fend et on redresse les planches, et si elles sont un peu gauches ou une différence d'épaisseur, on les reprend à la hache. Il faut déjà choisir des arbres qui sont susceptibles d'être fendus comme il faut, hein, qui n'ont pas poussé en vrillant, c'est-à-dire le tronc qui pousse comme ça, comme une vis, quoi. Donc ça, c'est infendable. Et donc il faut déjà commencer par la sélection des bois, et après, il faut savoir fendre, quoi.
Vous nous montrez comment on fend ?
Oui, je peux. Ça va vraiment être ridicule, hein, parce que... Il y a une toute petite longueur comparée à ce qu'on peut fendre en plus long. Mais bon, enfin, le principe va rester le même. On commence par faire une amorce pour diriger le coin. Et après, on fend avec un coin en bois. C'est pas un coin en fer, donc il faut que ce soit un bois qui soit plus dur que le bois qu'on veut fendre, en fait.
Et avec ça, vous pourrez faire des étagères.
Ouais, ou des chevilles.
Vous, Nicolas, est-ce que vous avez toujours été charpentier, en tout cas depuis que vous avez l'âge de travailler ?
Oui. Ouais, c'est mon premier métier. Ouais. En fin de formation, je connaissais déjà Guédelon, donc je venais l'été travailler, filer un coup de main. Et puis bah, je suis venu en fin de saison, en 2002. Ouais, puis je suis resté.
Et est-ce que le Normand que vous êtes s'est installé ici, à Guédelon, dans l'Yonne ?
Oui, je me suis installé. Ouais.
Il paraît même que vous allez construire votre maison.
Ah, je suis en train de la construire, ouais. Ça fait 2 ans déjà.
Tout seul ?
Ouais, quasiment, ouais. Ouais.
Et selon les principes d'ici, de Guédelon ?
Ouais, sans mécanisation. Ouais.
moi je mets la dernière main, mais j'ai pas tellement participé à ce travail là. Donc je refais les joints pour vraiment protéger le, éviter que l'eau s'infiltre. Là vous voyez l'eau elle ne va pas glisser là, elle va pouvoir glisser dessus. Ici, c'est les maçons qui étaient là et tailleurs de pierre qui ont fait le gros du travail, quoi.
Le gros de la fenêtre gothique de la chapelle,
voilà.
C'est ça.
Alors après, voilà, vous allez me poser des colles parce que alors, les termes, Florian il va rouspéter, mais je les connais vraiment pas tous.
Mais je croyais que vous étiez maçon.
Ah, je suis maçon, mais une fenêtre comme ça, on n'en pose pas une tous les jours. Et celle-ci, je n'ai pas participé à la pose. Voilà. Donc, oui, vous d'arrête, croisée d'ogives, les maçons actuels ne le font pas. Donc, oui, c'était vraiment retrouver des gestes. Voilà.
Alors, depuis quand vous êtes maçon, Philippe ?
Ah ben, moi, depuis l'âge de 17 ans. Ah bon, après, avec une carrière qui est passée par les travaux publics. Et puis, j'ai connu Guédelon en 2002 en visiteur. Et j'ai eu envie de travailler comme ça. Donc, je suis venu travailler pour mes vacances, puisqu'on peut travailler en bâtisseur à Guédelon. Et au bout de 2 ans de bâtisseur, eh bien, j'ai fait ma lettre de motivation, mon CV, sur le bureau de Marilyn. Et puis voilà, je me suis fait embaucher.
Et c'est là que vous avez décidé de vous faire pousser la barbe ?
Non, elle était là depuis longtemps. Non, non, j'ai rien changé pour Guédelon. Rien du tout.
Qu'est-ce que ça fait d'être un maçon du XIIIe siècle ?
C'est déjà assez agréable. Par rapport à l'ambiance du chantier, il faut aimer voir du monde. Hein. Bien sûr que si vous voulez travailler dans votre coin, ça n'a pas tant d'intérêt. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est de travailler avec tout un tas de bâtisseurs et puis tous les groupes de jeunes qui arrivent. Et on fait un peu de la pédagogie. Et voilà. Et en plus, on est toujours en éveil pour un peu plus de culture, pour savoir ce qui s'est passé. Parce que moi, l'histoire, auparavant, c'était pas plus que ça. Voilà, c'est de retomber dans l'histoire et puis de découvrir plein de choses.
Par exemple, qu'est-ce que vous avez appris ?
Ben sur les techniques pour fabriquer le mortier, comment utiliser la chaux, les différentes sortes de chaux. L'année prochaine, on espère construire un four à chaux, donc pour fabriquer en expérimental, mais fabriquer un peu de notre chaux.
Dites, vous n'auriez pas un petit accent lyonnais sous votre barbe ?
Ah, mais oui, c'est vraiment vrai, ça. Je suis complètement lyonnais, un bon gone. Enfin, des monts du Lyonnais, hein, pas de la ville.
Et vous vous êtes installé là, dans Lyon ?
Pas complètement. Non, non, on ne peut pas partir de Lyon. Ouais, non, non, je suis encore... Ben, comme les maçons, ils bougeaient beaucoup. Hein, puisque, oui, même les maîtres d'œuvre sillonnaient toute l'Europe. Hein, ceux qui étaient connus, qui construisaient des cathédrales, on les retrouve à l'Est, enfin un peu de partout, hein. Bien sûr. Peut-être qu'ils s'installaient, mais moi je fais les voyages tout au long de l'année, et puis cet hiver, là, je vais rentrer hiverner dans les monts du Lyonnais. Au moins les soirées au coin de la cheminée.
Un cheval qui porte une carriole, qui transporte le mortier, qui servira aux maçons, qui construit la fenêtre gothique de la chapelle de Guédelon. Florian Rinucci, j'ai cru reconnaître 2 anachronismes dans ce reportage. Il y avait d'abord l'avion qui a coupé la parole de Nicolas Charpentier. Bon, ça, vous n'y êtes pour rien. Mais j'ai cru entendre une poulie aussi. Ça existait au Moyen-Âge, la poulie ?
Ouais, la poulie existait bien avant le Moyen-Âge, hein, puisque tous les levages de l'époque antique... même avant, les Romains utilisaient tous les systèmes de moufles. Nous, le cliquetis de la poulie, c'est parce que la poulie, elle est équipée d'un clapet anti-retour de sécurité. La sécurité est celle du 21e siècle. Ça ne nous empêche pas de travailler, d'être dans les gestes au plus proche, pour tailler la pierre, mais on se protège avec des échafaudages en bois qui ont adapté effectivement par boulonnerie. Donc ces petits anachronismes sont la conciliation avec le monde d'aujourd'hui, mais ils ne remettent pas en question les gestes. Et ce qui est très important pour nous, c'est l'authenticité à la fois de la manière du processus de fabrication, d'utiliser tout simplement que des techniques manuelles pour produire, et les matériaux. La différence entre construire, comme au XIIIe siècle, avec les techniques du XIIIe siècle, et restaurer aujourd'hui, c'est que quand on restaure le patrimoine, on utilise des matériaux industriels. Le sable est industriel. Les liants chauds, chaux hydrauliques et autres sont fabriqués, sont des produits industriels. La pierre, souvent, malheureusement, a été usinée en carrière et on va simplement la retoucher. Moi, il m'est arrivé en monument historique de peindre des lichens pour donner l'illusion et finalement faire du lifting de façade. C'est la grande différence. À Guédelon, on a largué les amarres. J'ai une anecdote, c'était notre crainte la première année 98. On s'est dit, mais bon, ça, on va quand même pas construire ce château avec les liants en sac, là, qu'on achète chez les points. Enfin, je ne veux pas citer.
Les points bip.
Voilà, les points bip ou autres. Et un archéologue, Christian Le Barrier, nous a dit, mais attendez, vous avez ici un sable qu'on retrouve au niveau des mortiers du château de Raty, de Saint-Fargeau. Il est jaune, il contient un petit peu d'argile. Mélangez-le avec une chaux aérienne. Et donc on a trouvé un artisan pour fabriquer de la chaux aérienne, donc un produit qui est éteint dans l'eau, donc il y a un processus de fabrication qui est conforme et qui se comporte au niveau physico-chimique comme les chaux médiévales, mélangé avec le sable du site. Donc on a des mortiers qui sont les mortiers qui ont été utilisés au niveau des châteaux, au niveau des cathédrales. Et c'était notre grande angoisse. Est-ce que le mortier allait tenir? On le piquait avec des couteaux parce qu'on se dit, mais c'est pas possible. Même un certain nombre d'entre nous qui avions travaillé sur les chantiers monuments historiques, on se disait, oh là là là, qu'est-ce qu'on fait? On croyait au credo du tout ciment, quoi. Eh ben, pas du tout. Ça tient. C'est plus lent à prendre, mais ça tient.
Alors, le matériau, c'est une chose, mais le geste, qu'est-ce que ça veut dire retrouver les gestes, comme dit Philippe? Comment est-ce qu'on peut retrouver des gestes que personne n'a peut-être conscrits nulle part, à moins que je me trompe?
Il n'y a pas de manuel. Il n'y a pas de manuel et là, on a besoin de tout le monde, de toute l'équipe. C'est-à-dire que personne n'a la science infuse. Le premier problème, c'était comment arriver à casser des rochers. La carrière de greffier Junot, elle est belle. C'est une roche qui est donc elle est ferrugineuse. Elle a différentes couleurs, du bleu, du rouge, du marron. Et comment arriver à couper ces rochers? On a essayé de faire des avant-trous, de mettre des coins métalliques dedans. Et peu à peu, une recherche qui s'est faite à plusieurs, une trouvaille qui était faite par un des premiers tailleurs de pierre, Philippe, a été finalement transmise, s'est perfectionnée et c'est devenu une technique, puis une culture constructive. Aujourd'hui, c'est devenu facile de produire. Un carrier peut fournir à peu près 1 mètre cube de pierre foisonnée par jour. Voilà, on est arrivé à dompter une pratique qui fait qu'avec, à main nue finalement, des rochers, l'équipe de Guédelon, si elle se retrouve sur une plage de Bretagne avec du granit, en quelques semaines, on verra les rochers se transformer en matériaux de construction, des pierres de taille et des moellons. Voilà le truc.
Dites Florent Rinucci, est-ce que vous avez toujours été un manuel?
Ah non, non, j'ai essayé d'être un petit peu les deux, enfin bon, j'ai commencé...
Les deux, c'est-à-dire un télo et manuel
ouais,
à la fois, c'est ça?
Ouais, un télo au départ, ouais. Un petit passage par Hippocagne, voulant plutôt philosophie, et envie aussi de pas laisser la main s'ennuyer, et donc Mon métier, je voulais que ce soit un métier manuel et j'ai toujours été attiré par le patrimoine, les vieilles pierres et je me suis formé donc après donc mes études, fac, à faire tailleur de pierre.
Et il faut les deux sur un chantier, des intellos et des manuels. En tout cas, c'est un adage. Alors moi, je ne sais pas, je vous le soumets.
Je crois qu'il faut suivre finalement un groupe, la force d'un groupe. Chacun a des solutions à proposer. Et parfois, les solutions de bon sens sont données par des gens qui vont trouver le petit geste qui permet, qui est la solution parce qu'ils sont dans une culture locale, ils l'ont vu faire. Comment c'est mis en place, en fait, les techniques à Guédelon ? C'est le fait de chercher à plusieurs, d'essayer plein de choses et surtout de savoir écouter. Retenir la chose qui a fonctionné. L'outil pris d'une certaine manière, par exemple pour fendre la pierre, prendre la pierre dans le sens des lits et arriver à la casser en ayant tout de suite des faces plates. C'est pouvoir recueillir ce qui a fonctionné, écarter ce qui ne fonctionne pas. Et surtout, c'est un petit peu le travail que l'on a dans l'équipe, engranger ce savoir qui est donné par tout le monde et le faire partager à tous. Donc c'est un va-et-vient pour que toute l'équipe progresse en même temps qu'elle cherche.
Alors il paraît qu'au Moyen-Âge, les maîtres d'œuvre avisés savaient à peu près pour tel et tel ouvrier à quel tempérament il allait être confronté. Est-ce qu'on peut vraiment faire correspondre à chaque corps de métier un caractère particulier ? Je crois qu'il y a des écrits du Moyen-Âge qui l'expliquent.
Oui, bien sûr. Oui, c'est rigolo ça. Les profils, le tailleur de pierre, les tailleurs de pierre, ils sont un petit peu artistes, un peu fantasques. La rigueur, c'est pas trop leur cul. Ils aiment bien s'amuser, ils aiment bien déconner, tout en étant passionnés par les beaux ouvrages. Hein. Ça, on n'enlèvera pas un tailleur de pierre l'envie de faire des... Voilà, les charpentiers, c'est plus, peut-être plus introverti, plus besoin d'être dans le trait, concentré. Et puis ils peuvent être aides, on peut le dire quelquefois. S'ils ont quelque chose à dire, ils y vont pas par quatre chemins. C'est un trait de caractère qui rejoint finalement un groupe de métiers. Le forgeron, c'est le sage, c'est un peu la tempérance, c'est lui qui va arbitrer. On imagine bien au cœur des villages ce que pouvait être la force tranquille du forgeron et peut-être qu'on appelait à sa sagesse pour trancher des conflits. Et ça a duré tout le temps qu'une société a fait vivre l'artisanat. Ça me rappelle Maurice Genevoix qui parlait de ce monde hautement civilisé qui était ce monde des métiers.
Alors vous parliez du tailleur de pierre comme d'un artiste un peu fantasque. C'était aussi le tailleur de pierre, l'aristocrate du chantier.
Je termine le tailloir. Donc, le tailloir, c'est la partie haute du culot. Donc, un culot, c'est d'où va partir la voûte qu'on est en train de construire là, pour aller dans la tour de la chapelle. Et ça fait 6 jours que je suis déjà sur ce caillou là.
Vous êtes dans le détail là.
Ah oui, là c'est vraiment la finesse, parce que ça s'appelle un onglet là, la moulure que je suis en train de terminer. Et c'est un tout petit angle aigu. C'est vraiment délicat. Voilà.
Comment ça a commencé, là, l'histoire de ce caillou que vous avez taillé en moitié d'octogone? Ça a commencé?
Au tout départ, on part dans le jargon, on appelle ça une patate. Donc c'est un caillou qui ressemble à rien du tout. Et après, c'est à nous de le rendre d'équerre. Après, de le mettre à la forme avec un gabarit qu'on nous donne. Et avec les gabarits, de suivre la cote... On est au millimètre, la tolérance est le millimètre. Donc voilà.
C'est votre quantième caillou ?
Sur le chantier, moi j'ai attaqué ici le 1er août. Donc là, j'ai déjà taillé des beaux cailloux aussi pour la fenêtre à remplage, qui est déjà maçonnée dans la fenêtre, dans la tour de la chapelle. J'ai fait aussi des marches, j'ai fait un voussoir, donc pareil, qui va aller aussi sur la voûte à croisée d'ogives. Donc ça fait pas mal de cailloux déjà taillés depuis début août, quoi.
Vous êtes arrivé début août à Lynes ?
Oui.
Donc vous êtes une nouvelle venue sur le chantier à l'échelle en tout cas de Guédelon.
Oui, tout à fait. J'ai terminé ma formation fin juillet. J'ai eu l'occasion de faire un de mes stages ici à Guédelon pendant ma formation. Et du coup, ça s'est vraiment bien passé avec l'équipe. Les gars, ils ont trouvé mon travail cohérent avec le chantier en tout cas. Donc du coup, j'ai eu la chance qu'on me propose un contrat ici. Et du coup, j'ai encore plus de chance de savoir que je serai prise ici les 8 mois prochains pendant la saison.
En contrat de quoi on dit? Comment? Tailleur de pierre, lapicide, je crois qu'on disait à l'époque.
À l'époque, c'était ça. Mais maintenant, oui, c'est tailleur de pierre. Et même pour une femme, on dit tailleur de pierre.
Et comment vous êtes devenu tailleur de pierre? Est-ce que vous considérez maintenant comme tel? C'est votre métier?
Alors oui, c'est mon métier. Alors tout jeune métier, hein, parce que les métiers de l'artisanat comme ça, on les apprend vraiment sur le tas. Donc j'ai en tout cas le contenu théorique, mais la pratique, je l'apprends vraiment ici avec mes collègues. Et voilà, mais j'étais en reconversion. C'est pas mon métier initial. Je m'occupais de personnes handicapées avant, pendant 10 ans j'ai fait ça. Et je suis venue à Guédelon il y a 3 ans en tant que bâtisseur, comme on peut proposer. Ici on vient bénévolement une semaine, donc c'est ce que j'ai fait, j'ai touché la matière et c'est vraiment ce qui m'a attirée. Donc, en sortant de Guédelon, j'ai chopé les formations dans ma région. Et voilà, j'ai fait une formation et je suis venue là et j'ai vraiment beaucoup accroché avec la matière et ça me plaît beaucoup, quoi. Donc maintenant, tailleur de pierre.
Votre région, c'est où?
Là, j'habite dans le Puy-de-Dôme, donc j'ai fait ma formation à Volvic. Et là-bas, on a beaucoup, surtout, taillé de la lave.
Je ne sais pas si c'est le hasard, mais au moment où on vient vous voir, vous êtes 3, là, dans la loge des tailleurs de pierre et 3 femmes.
C'est ça.
C'est un métier féminin aussi, alors?
Je ne sais pas si c'est un métier féminin, en tout cas, ça le devient. Les hommes nous ouvrent un peu plus la porte, même si il faut prouver qu'on en veut un peu plus que les hommes.
Il y a du gros œuvre à faire aussi de temps en temps, il faut un peu de force physique.
Oui, il faut de la force physique et je pense que c'est surtout aussi de l'endurance. Parce que on n'est pas à taper avec un gros outil toute la journée sur notre caillou. On est vraiment, il faut tenir 8 heures. Et, c'est vraiment, oui, il faut de la force physique, mais c'est plutôt de l'endurance. Réellement, c'est de l'endurance qu'il nous faut.
Alors ça y est, vous avez vraiment changé de vie. Je peux vous demander quel âge vous avez?
J'ai 30 ans. Ouais. J'ai 30 ans, je suis vraiment contente de cette reconversion. Comme on dit ici, c'est pas nous qui choisissons la pierre, c'est la pierre qui nous choisit. Et j'aime beaucoup cette expression parce que là, sur le coup, c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi et je ne connaissais pas du tout cette matière. Et en arrivant là, ce contact du toucher, de ce qu'on peut en faire, et c'est vraiment très 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 agréable et très valorisant en plus. Et puis ici, sur le chantier, De transmettre notre envie et notre goût pour la matière aux visiteurs, c'est hyper agréable, quoi. C'est vraiment une des chances aussi du chantier de pouvoir partager ça avec des gens qui ne connaissent pas ou qui ne savent pas, et même des enfants. Voir les yeux briller dans les enfants quand ils entrent dans le château, quand ils nous voient avec des belles pierres, c'est vrai que c'est chouette, quoi. On a de la chance. Vraiment, on a de la chance.
Il y a des points communs entre votre métier d'aujourd'hui et celui que vous exerciez jusqu'à présent?
Je pense que c'est l'humilité. L'humilité, la patience, se rejoignent vraiment ici, parce que c'est pas moi qui ai le pouvoir sur la pierre, comme je n'avais pas le pouvoir sur les personnes avec lesquelles je travaillais. Ouais, c'est vraiment l'humilité, je pense que c'est vraiment ce mot-là.
Vous continuerez à tailler des pierres tant qu'il y aura des pierres?
Ouais, c'est ça. Tant qu'il y aura du boulot, on est là. Et en plus, on sait qu'il y en a du joli qui nous attend. Donc on est vraiment tous bien coordonnés, c'est vraiment très 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 joli. On façonne la pierre, mais les maçons, ils la subliment là-haut et c'est vraiment chouette.
Florian Renucci, maître d'œuvre, je vais y arriver, du chantier de Guédelon. Est-ce que vous avez parmi vos ouvriers beaucoup qui, comme Aline, ont changé de vie pour vous rejoindre, ont vraiment entamé une vraie reconversion?
Ah oui, il y en a effectivement qui sont venus et qui ont posé les valises à l'occasion du chantier et en même temps... Pour ma part.
C'est votre cas.
C'est aussi un peu mon cas. C'est-à-dire que on tombe amoureux de ce territoire. C'est l'épuisé. C'est quelque part, on est là dans l'intimité de ce qui fait le patrimoine. C'est cette pierre, la roche, les matériaux. Et pouvoir se rendre compte qu'avec effectivement un arbre, on peut faire autant de choses avec des outils aussi simplement. Effectivement, ça change le regard. Ça apporte réellement. Et puis voilà, le territoire est magnifique. Cette région qui est pourtant pas très loin de Paris, est simplement à peine 2 heures au sud. Voilà, elle mérite qu'on s'y pose.
Et vous n'avez jamais peur de tomber dans une certaine forme de folklore touristique, rester vraiment sur l'argument de vente un petit peu, venez nous voir, on travaille comme au XIIIe siècle, et puis une forme de folklore.
C'est pas vraiment du folklore dans la mesure où on ne tient pas des stands, en fait, on déroule le chantier. Les ateliers sont des ateliers où on transforme les matériaux du site en matériaux de construction, et le chantier, le château, c'est là où les matériaux sont assemblés par les maçons, par les charpentiers, quand ils assemblent, avec toutes les astuces de toute l'équipe. Et ce qui est fantastique, c'est de pouvoir montrer aux visiteurs qui connaissent le Mont-Saint-Michel, les Carcassonnes et autres, mais d'y voir l'artisan au cœur du monument. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas et qui manque. On n'a pas une vision pétrifiée d'un monument. On voit la gestation du monument au niveau de ce qui est de plus intime, des hommes et des femmes, déjà, qui transforment les matériaux, et d'autre part, l'écosystème. Encore une fois, les matériaux. On ferait le château à 30 km, il serait complètement différent. Ça serait pas la même pierre, ce sera pas le même sable, ça serait pas le même contexte historique. Et c'est ça qui est fantastique, c'est se rendre compte que quelque part une architecture patrimoniale, c'est comme un produit de terroir.
Alors pas de stand, mais des loges. Et la loge des tailleurs de pierre, c'était un lieu important au XIIIe aussi, parce que le maître tailleur, il négociait le salaire de ses collègues avec le maître d'œuvre. Comment vous les payez, vos tailleurs de pierre? Est-ce qu'ils sont payés à la pierre, comme au Moyen-Âge, ou est-ce qu'ils sont payés au lance-pierre? Comment vous les rémunérez?
Non, on est une entreprise, et puis voilà, ils sont payés. Alors l'entreprise a annualiser le temps de travail. Donc on a des salaires sur les 12 mois, avec comme on travaille certains jours fériés, certains week-ends. On a 3 périodes, en fait. Une période printemps, automne, une période avec plus de temps en juillet, août, et une période récupération complète. Donc, pendant quasiment 3 mois l'hiver.
Mais c'est quoi? C'est le SMIC à peu près pour
On est sur des salaires qui sont largement avec des primes et surtout avec.
Avec des avantages en nature aussi, parce qu'au Moyen-Âge, les tailleurs de pierre demandaient beaucoup d'avantages en nature, il paraît.
Alors, c'est vrai.
Quel genre?
C'était souvent exiger de la viande plusieurs fois par semaine. Ça pouvait être aussi. Voilà, une mise à disposition de bois pour le feu de la loge et autres. Voilà, mais on garde au niveau de nos pierres les marques de tâcherons qui sont la signature en fait de chaque tailleur sur chaque pierre, ce qui permet de savoir qui a taillé quel caillou.
Alors, le propre d'un chantier, Florent Renucci, c'est aussi d'être soumis à des délais. Quel est votre délai à vous en tant que maître d'œuvre? Quand est-ce que vous devez avoir fini Guédelon? Est-ce qu'il y a une limite?
On s'est donné 25 ans, ce qui est une estimation.
Donc 8 ans.
Alors, on s'y tient dans la mesure où maintenant, chaque saison, on a une programmation qui tient compte de ce qu'on est capable de faire. Et on peut dire effectivement que le gros œuvre sera en tout cas bien avancé en 2025. Mais si ça continue, parce qu'on ouvre des nouvelles fenêtres, il y a les peintures murales, la finition des huisseries, les portes, fenêtres. Est-ce qu'un jour on fabriquera de quoi avoir un verre peut-être translucide qu'il faudra peut-être essayer de fabriquer sur place, de la même manière qu'on a ouvert le dossier des tuiles, ça fait déjà quelques années, ce qui fait que toutes les tuiles du château sont fabriquées sur place. Voilà, c'est autant de choses qu'on va continuer à montrer sur le site à partir des matériaux. Et bon, ça peut nous rallonger un petit peu.
Et d'ailleurs, si le chantier de Guédelon s'achève, il n'a plus de raison d'être. Donc autant qu'il dure encore quelques années. Merci beaucoup à vous, Florian Renucci, d'avoir été avec nous. Alors, la construction d'un château fort, Guédelon, vous avez, avec Marilyn Martin, publié un livre sur le chantier et puis sur les techniques ancestrales de construction. Et c'est aux éditions Ouest France.
C'était Sur la route, des bâtisseurs de châteaux dans l'Yonne, par Julie Gacon, réalisation Yvon Croisier. Première diffusion sur France Culture le 31 octobre 2014. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.